can't believe it when I hear that you won't see me. Don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need me. Special and fine. You think you change your mind?
Bonsoir le club, Maxime Binet.
Bonsoir le club, c'est votre émission de référence sur l'actualité politique et ses coulisses. Au sommaire du club, deuxième jour de grève dans l'enseignement et retour sur les 30 000 manifestants d'hier. Toute la presse francophone revient sur la colère des profs, réformer le cahier fiance et la manière qui pose question. Nous reviendrons sur ces éditos en début d'émission. L'Arizona veut en terminer que ça passe ou pas. Un conclave au fini débutera dès demain. Cela sera la double voire la triple peine pour les enseignants. Déclaration de Roland Lahaye qui pointe la réforme des pensions et de l'indexation. Nous en débattrons également. Enfin, et puis finalement, pas de château de Val-Duchesse, mais toujours un dernier sprint final nécessaire. Bart Weaver a déjà prévenu que sans accord, il remettrait sa démission. On en débat en fin d'émission. Et bienvenue sur LN24 et sur LN Radio. Plus jamais vous ne verrez la politique comme avant. Et nous allons la commenter, cette actualité politique, avec nos trois chroniqueurs de ce soir. Bonsoir, Dorian Demeus.
Bonsoir.
Vous êtes le rédacteur en chef de La Libre Belgique. Entendre les inquiétudes tout en réformant l'école, c'est le titre de votre édito d'hier. On y reviendra en début d'émission. Bonsoir également à Romuald Lamorté.
Bonsoir, Maxime.
Vous êtes journaliste indépendant, un ancien aussi de la maison sur LN24, bien sûr. Votre spécialité est l'actualité politique fédérale et en région également. Enfin, bonsoir Fabrice Goffilet.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, éditorialiste et présentateur sur BX1. Votre édito de ce matin revenait sur les réformes éventuelles qui, justement, incluraient Bruxelles. Est-ce que vous avez du neuf par rapport à cela ?
Ah, ils sont en train d'en discuter maintenant. Ça fait partie des discussions de ces deux jours avant d'affronter le gros chapitre socio-économique. Toutes les petites choses, mais qui mises bout à bout peuvent être de grandes choses, pas forcément positives pour la région bruxelloise.
Eh bien, on en parlera en deuxième partie à l'émission. Voilà pour les présentations. On débute tout de suite avec les éditos. Cela sera la double peine, voire la triple peine pour les enseignants. L'enseignement est encore à la une de l'actualité. Réformer le qualifiant, c'est la manière qui pose question. C'est ce qui est écrit le soir en édito. Le soir rappelle qu'en 2017, le pacte d'excellence est adopté. Une brique de 354 pages pour réformer en profondeur l'enseignement au fil des années. Et des coalitions, les partis fondateurs, mais aussi le MR et Écolo ont mouillé leurs chemises pour engranger les mesures, celles qui font plaisir d'abord, avec 400 emplois supplémentaires dans le maternel et le primaire et celles qui le font moins, à l'instar de la réforme du qualifiant. Les 30 000 personnes qui ont manifesté hier l'ignorent-elles, mais selon nos confrères, c'est surtout la manière qui pose question. Marge de manœuvre pratiquement inexistante pour les syndicats, suppression d'une partie des 7e années qualifiantes et refus de l'inscription des élèves majeurs et décrocheurs. La manière enfin quand, dans la foulée de cette réforme, le même gouvernement s'attaque à la nomination des professeurs. Voilà pour l'article, pour l'édito du journal Le Soir. Dorian Deminus, débutons avec vous. La manière de faire est un vrai problème?
Oui, je pense. Je pense qu'elle ne tient pas assez compte d'un mal-être qui est tout à fait réel, qui est généralisé dans l'enseignement. Parce qu'en fait, l'enseignement est réformé depuis de nombreuses années. Et il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup d'incertitudes aussi autour de toutes les réformes qui ont été annoncées. Et j'ai envie de dire, il y a eu sans doute une erreur de la part de la coalition MR engagée, c'est de venir rajouter encore des réformes lors de leur discussion du mois de juillet. Et je pense en particulier à la fin de la nomination des enseignants.
Alors,
je n'aurais pas dû le faire. Non, je ne suis pas contre cette nomination, mais je pense qu'elle arrive à un très mauvais moment et surtout qu'elle alimente une opposition, je pense au PS et Écolo en particulier, qui en fait aurait eu beaucoup plus de mal à s'opposer à la poursuite tout simplement du pacte d'excellence, parce que la poursuite du pacte c'était prévu et c'était attendu. Et j'ai envie de préciser quelque chose, Valérie Glatini, quand elle a repris le dossier de l'enseignement, elle savait très bien qu'elle arrivait au mauvais moment. Elle a même dit à son entourage, je suis un peu la pigeonne de service parce que c'est moi qui me tape les premières réductions de coûts et de rationalisation. Là où il y a eu des investissements, il y a quelques années encore, sur les premières mesures du pacte d'excellence. Et donc je pense qu'en fait, il y a trop à un moment qui tombe assez mal.
Vous êtes d'accord, Fabrice Grosfullet, il y a un problème de manière de faire de la part de la ministre Valérie Glatini et peut-être de l'ensemble du gouvernement de la Fédération Unie-Bruxelles. Hein.
Oui, alors il y a tout ce que décrit Dorian, évidemment. Et puis il y a sans doute aussi un problème assez belge, ou en tout cas assez courant, c'est le problème de la courroie de transmission. Mmh. Probablement que ce gouvernement MR engagé, il a moins l'écoute et il a moins de rapports et donc de possibilités d'échange, et un échange ça peut être tout à fait constructif avec les syndicats. Voilà, alors que la majorité précédente, PS Écolo, elle avait sans doute beaucoup plus l'oreille et l'habitude de travailler avec des représentants de la SCSC ou de la CGSP. On va signaler aussi qu'il y a quand même eu des changements de personnel, hein, y compris dans les syndicats. C'est plus les mêmes dirigeants syndicaux qu'avant. Donc tout ça complique sans doute un petit peu les relations. Donc tout ça est juste. Il y a quand même malgré tout un vrai problème de fond, je pense, quand même, sur la réforme du qualifiant. Hein. On est quand même en train de réellement faire des économies sur le qualifiant. Et ça, les profs ont du mal à l'accepter. Et les profs voient aussi ce que ça peut avoir comme impact pour une partie de leurs élèves. Mais il y a un petit peu de tout ça. Donc il y a une réforme contre laquelle on a sans doute des raisons de se dresser lorsqu'on est enseignant. Une frustration importante de se dire les enseignants de demain, ils ne seront plus avec le statut d'enseignant comme nous l'avons connu, ça va changer complètement le paysage. Et puis, il y a un ras-le-bol généralisé qui s'exprime là, et sans doute l'incapacité ou la volonté de ne pas contrôler de la part des organisations syndicales ce mécontentement.
Romuald Lamorte, hier, il y avait 30 000 personnes, une deuxième journée aujourd'hui de grève dans les écoles. Comment va suivre ce mouvement? Est-ce que, quelque part, vous pensez que les organisations syndicales n'étaient pas prêtes à avoir autant de monde hier dans les rues de Bruxelles?
Non, je pense qu'ils ont fait en sorte d'avoir autant de monde. Et quand j'entends la colère des enseignants, je ne pense pas que ça va s'arrêter d'un claquement de doigts. Dorian l'a très bien dit, depuis 2017, on parle de ce pacte d'excellence. Mmh. Notamment, on savait qu'il allait y avoir moins de cours techniques en troisième secondaire, vu qu'on prolonge les cours généraux, et donc que des professeurs qui donnaient des cours de technique de qualification allaient perdre des heures. On sait que les relations entre le monde syndical et la nouvelle coalition, eh bien, ils ont moins d'atomes crochus. Par contre, je pense qu'on va un peu beaucoup trop loin dans le plan d'économie, et qu'il faut pouvoir y répondre. Je vous donne plusieurs exemples. Quand on dit, on va supprimer les septièmes techniques de qualification.
Oui.
Parce qu'il y a, eh bien, c'est vrai, des options où il y a des doublons. Mais on n'a pas encore le cadastre. On n'a pas encore le cadastre qui permet de dire, nous avons tel ou tel, on va dire, oui, doublon, telle école propose ça dans telle zone géographique. Donc, avant même de faire cette réforme, de supprimer, peut-être aurait fallu avoir le cadastre pour vraiment regarder zone par zone. Parce que je vais vous prendre un point très concret. On dit, mais si jamais dans les 10 kilomètres, eh bien, il y a une autre offre, alors c'est bon. Je vais vous prendre un exemple. Vous êtes à Nivelles, par exemple.
Oui.
J'ai pris une école de Nivelles et j'ai comparé avec une école de Senef. Et on vous dit non, finalement, ça n'ira plus là. Vous allez devoir aller. Senef, c'est à 9 kilomètres et demi. Vous savez, si vous avez papa, maman qui peut vous y conduire, c'est simple.
Ouais,
c'est
les transports en commun.
Non, mais c'est tranquille.
Ouais.
Vous allez mettre 14 minutes en voiture. Vous n'avez pas papa et maman qui peut vous conduire pour X raisons. Vous savez combien vous mettez? 1h10. Donc, à un moment, il faut aussi se rendre compte que dans certains, je ne dis, bien sûr, à Bruxelles, dans une configuration, mais en Wallonie, il y a des endroits où si on doit aller beaucoup plus loin dans un rayon de 10 km, ça va prendre beaucoup plus de temps si on doit prendre les transports en commun. Donc moi je dis, un, le cadastre, deux, peut-être regarder à des circonstances particulières, même si c'est pas ça qui fait une politique de l'enseignement, tout ça, et alors on parle beaucoup de, il faut réduire les doublons, on va envoyer les gens dans la formation d'alternance.
Oui,
c'est très bien.
L'enseignement pour adultes, voilà.
Moi, ouais. j'y suis dedans. C'est très bien, ça peut aider. Mais à un moment, c'est bien beau de dire dans l'enseignement qu'il faut réduire les options et faire un travail. Je n'ai toujours rien vu dans l'enseignement d'alternance. Pourtant, on sait qu'il y a un nombre incroyable d'acteurs et qu'on pourrait là aussi rationaliser et simplifier.
Fabrice Grosfilet.
Il y a un aspect qualitatif aussi hein, pour les élèves qui sont concernés. On dit, vous allez pouvoir aller dans l'enseignement pour adultes, hein, ce qu'on appelle autrefois la formation d'alternance.
Mm-hmm.
Mais c'est pas les mêmes horaires, c'est pas les mêmes profs, c'est pas les mêmes techniques d'enseignement. On parle pas à un jeune de 18, 19, 20 ans comme on parle à quelqu'un qui est en reconversion professionnelle et qui en a 30 ou 40. Donc ça, c'est quand même des différences importantes. Et puis surtout, on va pas en créer, on n'aura pas la même qualité d'encadrement. C'est-à-dire que on fait bien des économies d'un côté, hein, dans l'enseignement qualifiant. On n'a pas du tout prévu de mettre du budget supplémentaire dans l'enseignement pour adultes. Si ça veut bien dire que dans l'enseignement pour adultes, on ne pourra probablement pas, on n'a pas encore prévu d'accueillir ces élèves.
D'accord, mais il y a quand même un problème, c'est que par exemple, les élèves décrocheurs et surtout majeurs ne sont plus remboursés par le fédéral lorsque, eh bien, ils sont financés par l'échelon de la fédération. C'est ça le problème. Finalement,
c'est pas ça le problème. Excusez-moi. Le problème, c'est qu'on a un enseignement qui coûte excessivement cher et qui n'est pas suffisamment efficace. Si on se compare avec les autres pays, c'est plus que douloureux. C'est même inquiétant. Donc, à un moment donné, on doit aussi pouvoir se dire, voilà, on a un problème, on doit oser réformer. On réforme beaucoup et sans doute un peu trop maintenant, mais on n'a pas le choix. Il faut réformer. Quand vous avez un problème d'efficacité et de coût, il n'y a pas le choix. Il faut intervenir. Et je pense que parler de désinvestissement, comme disent certains syndicats ou qui hurlent au désinvestissement.
C'est une fake news.
Mais c'est pas forcément une fake news, mais c'est totalement exagéré. On doit revoir, on doit rationaliser. Il n'est pas normal d'avoir 4 ou 7 élèves dans un cours s'il y a le même cours un peu plus loin. Et alors, moi, je veux bien une heure, une heure quart, mais enfin, moi, je prends une heure quart tous les matins pour venir ici. Et quand j'étais petit, je prenais le train, le métro, tout ça. Ça prend du temps parfois. Il faut aussi tenir compte des capacités qu'on a. On n'a pas les moyens de certaines ambitions, en tout cas des ambitions du passé.
Je sais que vous avez pas mal d'infos en off dans le demi-mus. Mais est-ce qu'il commence à avoir un problème entre les engagés d'une part et le MR d'autre part sur ce dossier-là?
Je ne pense pas qu'il y a un problème, mais je pense qu'il y a une difficulté. C'est que c'est quand même les engagés qui sont venus imposer quelque part le réforme du statut des enseignants. Le MR n'avait pas de souci avec ça, mais ça fait beaucoup. Et ça a vraiment été de l'huile sur le feu, alors qu'on ne voyait pas beaucoup les professeurs sortir. Et maintenant, on les voit. Alors, il y a des spécialistes du secteur qui me disent aussi, oui, mais le pacte d'excellence commence à toucher les enseignants du secondaire. Or, historiquement, les enseignants du secondaire sont ceux qui se bougent le plus, qui se mobilisent le plus facilement, et ils voient aussi là quelque chose qui fait la différence avec les premières réformes qui étaient aussi moins douloureuses, rappelons-le, sur le plan des moyens, parce qu'il y a eu des investissements qui ont été faits au niveau du fondamental.
Vous voulez rajouter quelque chose?
Je pense qu'on va répondre à trois questions. C'est où est-ce qu'on va vraiment couper? Quelles options? Et pas couper à la hussarde, et donc je pense qu'il faut affiner. La deuxième, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire de ces profs qui vont perdre peut-être des heures de cours. Un prof qui donne électricité, va pas donner mathématiques, par exemple. Et donc, est-ce qu'il y a des gens qu'on va mettre de côté? Et donc, peut-être qu'il faut assumer cela dans la vision. On peut comprendre qu'il y a des personnes peut-être qu'on n'a plus besoin dans ce nouvel enseignement qu'on nous vend. Et la troisième chose, on parle beaucoup de concertation. Et moi, j'aimerais qu'on m'explique le mot. Qu'est-ce qu'on remet derrière ce mot, en fait? Parce que concertation, si c'est juste pour avaliser les décisions du gouvernement, alors c'est pas vraiment concertation. Donc, j'entends beaucoup maintenant qu'on dit, on va pouvoir débattre de tout sans tabou. Je veux qu'on nous explique concrètement derrière le mot concertation, qu'est-ce qui va être posé, qu'est-ce qu'il y aura comme méthode. méthode.
C'est vrai ça, il y a 4 groupes de travail qui vont être mis en place par la ministre-présidente Elisabeth De Grees, qui est de plus en plus présente dans ce dossier, et Valérie Latini, la ministre de l'Enseignement obligatoire, particulier aussi, puisque sur l'ancienne législature, avec Pierre-Yves Jollet, qui était ministre-président, et Corinne Désir, l'ancienne ministre de l'Enseignement obligatoire, j'ai l'impression que chacun restait chez soi. On ne voyait pas le ministre-président francophone venir s'occuper d'un dossier de la ministre PS de l'époque.
Oui, alors la configuration n'est pas la même, hein, et le rapport entre les partenaires n'est probablement pas le même. Mais on va synthétiser tout ce qui est dit en fait en insistant sur un mot, donc concertation. Il y a visiblement une petite ouverture hein, là de concertation qui est en train de se faire. J'entendais le CEGEC y réagir de manière favorable et positive. On va voir si les syndicats auront la même réaction, peut-être, et donc peut-être que la pression va légèrement redescendre, mais peut-être aussi que le gouvernement a été un peu saisi par le nombre de manifestants dans les rues de Bruxelles hier. Mais le mot qui manque, c'est le mot pédagogie, en fait. La pédagogie, c'est important pour un prof, c'est aussi important pour un ministre.
Je peux vous dire quelque chose que je pense réellement.
Allez-y.
Par rapport à ce que vous avez dit sur Jollet et Désir. Donc, je reviens là-dessus. Je pense que Pierre-Yves Jollet était très mal conseillé en termes d'enseignement. Il y a 2 dossiers énormes qu'il n'a absolument pas vu venir, que le MR a de rétro-pédaler n'a pas su. C'est celui du calendrier scolaire avec l'urgence qu'il y a eu. En 4 mois, il fallait absolument que ça passe. Et celui de la répartition des fonds par réseau d'enseignement, on a senti un malaise énorme. Et d'ailleurs, à la fin de son mandat, il a essayé de récupérer les choses en faisant une nouvelle répartition. Ce sont 2 dossiers majeurs dans l'enseignement qui ont démontré que le ministre-président n'était pas à haut niveau de l'enseignement.
Je pense dur que ça change beaucoup.
Et une autre différence, c'est qu'ici, les engagés viennent avec un dossier en plus qui est porté donc par Elisabeth De Grees. Mais sur mon point de vue, je peux être totalement à côté de la PAC, mais c'est comme ça que je vois les choses.
Je pense surtout que le rapport n'est pas le même et que le Parti Socialiste, qui est quand même un parti très organisé avec une certaine qualité dans le personnel qu'il conseille et dans les conseillers, une bonne implantation dans le monde de l'enseignement, on avait fait une sorte de chasse gardée. Et donc, c'était aussi bien l'enseignement que les bâtiments scolaires, que la tutelle de WBE, c'était une chasse gardée du Parti Socialiste. Et c'était très clair dans le deal de majorité. Je pense que ça, c'était des dossiers PS et que le MR n'allait pas beaucoup s'en mêler.
Et il faut qu'on avance dans cette émission. Je propose de passer à Punchline, qui est aussi lié à la colère des professeurs, mais aussi au plan de l'Arizona. L'Arizona s'apprête à entrer en mode conclave. On vous plantera le décor puisque ces réunions finish n'auront pas lieu finalement. On l'a appris dans le courant de la journée à Val-Duchesse, un haut lieu de l'histoire politique belge. On en profitera tout de même pour expliquer ce lieu important dans l'histoire de notre politique. Il sera surtout question durant ce conclave des pensions et de l'indexation. Écoutez, Roland Lahaye, qui était notre invité de ce matin dans le Café Sans Filtre. Que vous inspirent les réformes des pensions, l'harmonisation des régimes de fin de carrière, une indexation une fois sur l'année, y compris pour la fonction publique? C'est ce qui est en tout cas sur la table et qui sera négocié.
Alors j'avais posé qu'est-ce que ça inspire, je vais vous dire rien de bon. Rien de bon, parce que les enseignants vont prendre la double, voire la triple peine. On les attaque à tout niveau.
Il faut que notre système soit finançable.
Mais alors quand le système doit être finançable, alors il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. Je rappelle quand même que les surprofits, c'est plus de 40 milliards. Que la faute fiscale, c'est à mon avis 30 ou 35 milliards. Qu'on fait des cadeaux aux
entreprises. Oui, mais en Belgique, il y a indexation.
Mais à un moment donné, qu'on arrête toujours de rabâcher la même chose. J'en ai marre d'entendre cette chanson qui ne concerne que les mêmes, c'est-à-dire ceux qui travaillent.
D'accord.
Et à un moment donné, on ne peut pas opposer les gens. Aujourd'hui, on oppose tout le monde. Et donc, c'est pas comme ça qu'on fait une société.
Ok.
Et donc, quand je reviens aux pensions, moi, j'aurais préféré un gouvernement qui ramène les pensions les plus basses vers le haut, plutôt que ramener les pensions les plus hautes vers le bas.
On a vu ce que ça donnait hier, et ce sera ma dernière question, dans les rues avec les réformes dans l'enseignement. Si l'Arizona voit le jour, ce mouvement prendra de l'ampleur ou pas?
Mais de toute façon, il y a déjà une manifestation des services publics qui est programmée le 13 février à l'initiative, du Front commun.
Oui.
CSC, FGTB et le syndicat libéraux. Les enseignants sont invités à participer. Ça faisait partie de mon discours hier. J'espère qu'ils seront nombreux dans la rue parce qu'ils doivent prendre conscience que l'attaque, elle viendra aussi de ce niveau-là.
Voilà, cela sera la double peine, voire la triple peine pour les enseignants, déclare Roland Lahaye, le patron de la CSC Enseignement, le principal syndicat dans le monde enseignant. Romuald Lamorté, bon, il était très en forme, malgré bien cette manifestation de 30 000 manifestants hier qui sont passés notamment à part les sièges des 2 partis politiques qui font la majorité en Fédération de Bruxelles, à savoir le MR et les engagés. Est-ce que c'est exagéré ou pas ?
Qu'est-ce qui est exagéré?
L'inquiétude, en tout cas, dire que finalement, ces pensions, c'est une double peine, voire une triple peine pour les profs.
Ça dépend j'ai envie de dire, dans quelle classe sociale vous vous trouvez et qui est concernée. Alors, on va parler de l'indexation automatique des salaires, par exemple, ce qui est actuellement sur la table. Vous êtes dans le secteur privé, vous n'en avez droit qu'à une. Les fonctionnaires en ont droit à quatre par an, si je me trompe pas, trois ou quatre. Alors, est-ce qu'on peut changer cela ou pas? Imaginez qu'on se retrouve dans une période comme en 2022, avec la Russie qui attaque l'Ukraine, on a eu une poussée inflationniste. Et ce mécanisme d'indexation automatique des salaires, décrié, mais qui existe, je le rappelle quand même, depuis plus de 100 ans, donc c'est qu'il a quand même, dans des formes diverses, il a quand même son utilité, sinon il ne serait pas là depuis autant d'années, eh bien il a quand même permis à une partie de la population de s'en sortir un plus facilement. On sait bien que le coût de la vie reste quand même cher en Belgique. Vous devez faire vos courses, c'est plus cher que si vous êtes français, par exemple. Et donc, je pense que c'est un mécanisme qui a fait ses preuves. Alors, par rapport vraiment aux pensions, eh bien c'est vrai qu'on va dans un système où vous allez devoir travailler eh bien de plus en plus longtemps, mais c'est pas nécessairement que vous allez avoir autant d'argent que ceux qui ont pris leur pension qui la prennent actuellement. Mais je pense qu'il y a une énorme frustration, en tout cas je l'entends dans ma génération, de jeunes qui disent eh bien on va devoir travailler beaucoup plus que nos aînés et au final le montant qu'on aura sera inférieur. Et il y a une frustration de se dire, c'est toujours aux travailleurs qu'on va demander des efforts, mais peut-être, alors là c'est jeter un énorme pavé dans la mare, on ne demande jamais d'efforts à ceux qui sont actuellement pensionnés. Et je pense que parfois certains, eh bien je parle d'une autre génération beaucoup plus ancienne, ont une vie quand même beaucoup plus confortable que ceux qui vont trimer peut-être jusqu'à 67 ans ou encore plus et qui auront une pension assez dérisoire comme salariés indépendants.
Ah, ça, c'est assez novateur ce que vous mettez là sur la table, taxer peut-être davantage les pensionnés. La France a essayé, hein, et c'est un ancien premier ministre qui...
Électoralement, c'est pas porteur, ça c'est sûr.
Qui a dû démissionner, justement, faute d'accord pour le budget. Dans deux minutes. Alors, je rappelle aussi que l'indexation, il y a différents régimes, hein, Romuald Lamorté, on a qui... bien augmentent leur salaire grâce à cette indexation plusieurs fois sur l'année, ou dans le privé notamment, où c'est une fois, mais c'est une
ça
fois
dépend, dans le privé, augmentation. Ça dépend des commissions paritaires.
Ça dépend des commissions
paritaires. Pour 40%, je pense, c'est une fois par an.
Dorian Deméus, on parle beaucoup du jet des allocations sociales, introduction d'un malus pour les pensions, harmonisation des régimes spéciaux de fin de carrière, et j'en passe.
Mais Maxime,
c'est
attendez.
Majeur ce qui se passe
oui,
ici
mais ce
comme
qui
réforme.
Vient d'être démonté. Ah, excuse-moi, il y a plusieurs choses ici. Il y a une forme de conservatisme de gauche, hein, qui veut dire, ah, c'est de là depuis 100 ans, donc il ne faut pas y toucher. Or,
je vais dire ça.
Non, mais.
Ah, ou pas l'indexation automatique.
L'indexation des salaires. Pourquoi? Parce que c'est bon depuis 100 ans. Mais non, il faut pouvoir réformer ce système. Pourquoi? Parce que d'abord, il est tout à fait injuste. Pourquoi est-ce que certains, on parle des indépendants aussi, qui ne peuvent pas se le permettre, évidemment, la plupart du temps, pourquoi est-ce que certains pourraient le faire tous les 4 mois et donc profiter du moindre pic inflationniste, énergétique, météorologique, tout ce que vous voulez, et d'autres doivent attendre un an? Pourquoi cette différence? Pourquoi est-ce que le petit salarié ou le grand, celui qui a beaucoup de moyens, peuvent avoir la même indexation? Pourquoi est-ce qu'on ne revoit pas ça en disant, mais il faut revoir les échelles selon le niveau qu'on a? Alors on dit, oui, mais attention, parce que les recettes pour la sécurité sociale ne sont pas les mêmes. Très bien, mais enfin, le modèle peut quand même être remis en question. Or, aujourd'hui, personne ne remet en question, et c'est plutôt une bonne chose, hein, personne ne remet en question le principe même de l'indexation des salaires.
Mais plutôt ce qu'il y a à l'intérieur.
Mais plutôt ce qu'il y a dedans, le calcul.
Pourquoi est-ce que ça monte, voilà. Par exemple, ça, je pense que c'est aussi important de dire sur quel
produit... C'est complexe en Belgique, avec le nombre de commissions paritaires.
On base pour savoir si l'index va augmenter. Je pense qu'il sera très important.
Le panier de la ménagère, oui.
Exactement. Ce qui sera très important, c'est de se dire à quel niveau d'inflation on estime que c'est critique et qu'il faut absolument qu'une indexation concerne l'ensemble des Belges. Ça, je pense que c'est crucial et j'aimerais que les négociateurs répondent aussi à cette question un jour ou l'autre.
Fabrice Grosfilet, on vient de parler de l'indexation automatique des salaires. J'aimerais qu'on vienne aussi sur la réforme des pensions. Une réforme de pensions jusqu'en 2040 estimée à 2,2 milliards d'économies. C'est une vraie réforme des pensions, au contraire de ce qui avait été décidé sous le précédent gouvernement. Et sous le gouvernement de Charles Michel?
Alors, c'est une réforme des pensions qui va avoir un impact. On ne va pas reculer l'âge de la pension, mais on va passer de la carotte au bâton, en quelque sorte. Hein, puisque dans l'idée, il y a effectivement cette notion de malus pension. Si vous partez trop tôt à la pension, vous ne toucherez plus votre pension légale ou la pension. Et les conditions d'accession à la pension minimum seront également
moins 2%,
aussi.
Plus 2% par an.
Je voudrais quand même revenir sur ce qui a été dit. Donc, d'abord, l'indexation, ce n'est pas de l'argent volé par les salariés. Alors on peut regretter que les indépendants, évidemment, n'aient pas le droit au même système, mais ce n'est qu'un rattrapage pour garder intact un certain pouvoir d'achat.
Et tout à fait souhaitable.
Et donc voilà. Alors quand vous dites, Dorian, que c'est pas remis en cause, il faut le dire vite, parce que moi j'entends quand même très régulièrement la FEB ressortir à chaque négociation gouvernementale.
Oui, mais la régionale remet pas en cause.
Voilà, cette idée, oui, peut-être que pour l'instant c'est pas remis en cause frontalement, mais l'idée de lisser en fait l'indexation, parce que c'est ça qui va se passer, c'est qu'on va reporter l'indexation des salaires. Alors ça va peut-être représenter que quelques dizaines ou centaines d'euros à chaque fois, mais sur l'ensemble d'une carrière, là on va quand même avoir une perte qui va être de plusieurs milliers d'euros pour les salariés. C'est plusieurs milliers d'euros qui vont dans la poche des entreprises. Il y a une autre idée que vous avez émise qui est, à mon avis, quand même un petit peu dangereuse. C'était l'idée d'avoir un index différencié. Si on pratique l'index pour les petits salaires et on ne le pratique pas pour les gros salaires, ben on va finir par lisser les salaires. Et donc, voilà, il y a quelque chose peut-être là-dessus qui peut se discuter entre partenaires sociaux, pourquoi pas. Mais il faut quand même bien mesurer qu'à chaque fois, ça a quand même beaucoup de toucher au système, a toujours beaucoup de conséquences qu'on ne mesure pas tout de suite au départ.
Dorian Demius, votre réaction, parce que c'est vrai que Voreut est mis sous pression avec cette indexation, ce lissage d'indexation automatique des salaires.
Ah mais c'est clair, parce que en fait, Voreut craint que pour le grand public, ça soit attention, on a touché l'indexation des salaires. Or on sait, on l'a vu avec la Suédoise, c'est un tabou en soi. Donc cette image-là, c'est évidemment quelque chose qu'ils veulent toucher. Maintenant, là où je suis d'accord avec Fabrice Grosfilet, c'est que on peut mesurer les choses, on peut voir ce qu'il y a moyen de faire ou pas moyen de faire. Mais quand vous avez des pics sur 4 mois parce qu'à un moment donné, il y a le gaz russe qui coûte plus cher et que ça a un impact sur toutes les entreprises, on a un problème de compétitivité. Alors on ne parle pas de compétitivité ici, on parle surtout de ce que touchent les allocataires et les salariés et autres, mais il y a aussi, on a un pays qui doit être plus compétitif par rapport à ses voisins. Ça fait partie de l'ensemble des conditions pour avoir un pays qui soit sain, stable, économiquement solide.
Oui, quand même un avantage dans le système d'allocation des salaires, c'est une certaine forme de paix sociale. C'est-à-dire que comme on a un mécanisme automatique, on n'a pas besoin de le renégocier. Les syndicats n'ont pas besoin de mobiliser, de descendre dans la rue, de faire des grèves, etc. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on ne doit pas perdre de vue. Mais je suis d'accord avec vous, Dorian, et peut-être que le bon chemin à prendre, c'est quand même de recalculer ou de reprendre en question le palier de la ménagère. Est-ce que justement, ces phénomènes de variation extrême de prix de l'énergie, voilà, comment est-ce qu'on peut faire, on ne doit pas les sortir complètement du panier de la ménagère, mais peut-être comment on peut essayer de lisser, de trouver des formules qui soient un peu moins, je vais pas dire violente, mais peut-être les à-coups qu'on a observés dans le passé.
Peut-être juste encore deux mots quand on parle vraiment de ce chapitre un peu fiscalité socio-économique. Pour moi, il y a quelque chose la grande absence. On parle d'une réforme XXL des pensions, mais j'ai pas vu de réforme XXL, moi, de la fiscalité. On parle d'augmenter encore les chèques repas. On va supprimer les éco-chèques, les chèques culture, les voitures de société, ça va rester en l'état. Donc, un peu ce Big Bang qu'on attendait là, que voulait Vincent Van Putteghem, il aura pas lieu encore ici. Et une autre chose, cette réforme au niveau des allocations de chômage qui s'arrêtera après 2 ans, il y a un danger que les francophones ne saisissent pas assez, qui fait que, c'est in fine les régions qui vont devoir trinquer, vu que ce sont des personnes qui, à un moment, vont se retrouver dans un autre schéma, plutôt de type CPS.
Eh bien, on va en parler en deuxième partie d'émission, à faire une courte pause et continuer notre discussion, notamment pour préparer un peu ce conclave au finish budgétaire, notamment pour préparer la note du futur gouvernement, normalement présidé par Bardu Ever en tant que futur premier ministre. On va le voir que, justement, le lieu initialement choisi était Val-Duchesse, et que, finalement, à cause d'un problème de chaudière, apparemment, selon nos informations, eh bien, il faudra trouver un autre endroit. On en parle juste après la pause. À tout de suite.
Bonsoir, le club, en collaboration avec LN24.
It's cool. You can say that we ain't nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. Put their arms out like an angel through the stars on the roof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Cause I'm the poison boys. Sure, I never shall just stop the feeling. You can change just the way you are. Make a new excuse for stupid reason. The hook for you, oh, the hook for you. Yeah, it's not the world, it's inside.
Salon, c'est chez Percy Motors. Profitez de conditions exceptionnelles sur les marques Volkswagen, Audi, Seat, Cupra et Skoda. Et ce n'est pas tout. Tentez de gagner un vélo électrique et d'autres lots exclusifs. Rendez-vous vite chez Percy Motors à Wavre, Genval, Perouet et Gembloux.
Percy Motors, le service d'abord.
Voir conditions en concession.
Hélène Radio vous réveille au chant du coq. Le chant du coq, c'est chaque jour entre 4h et 6h. 100% chanson française.
Restez zen, soyons zen. Du sang froid dans les veines, soyons zen. Je lui dirai les mots bleus.
Bon réveil avec le chant du coq. Tous les matins entre 4h et 6h sur Hélène Radio. Hélène Radio s'écoute aussi sur le vocordeur. Canal 436.
Bonsoir le club, Maxime Binet. Très heureux de vous retrouver sur LN Radio et sur LN24. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie de Bonsoir le Club, votre émission de référence qui décrypte l'actualité politique et ses coulisses. Nous sommes toujours avec nos trois chroniqueurs de l'actu, à savoir Dorian Demius, Romuald Lamorté et Fabrice Grosfilet. Le formateur Bardo Ever ne s'enfermera pas demain avec les négociateurs au château de Val-Duchesse en vue de former un gouvernement fédéral. Après une visite technique, il a été constaté qu'il n'y avait pas de chauffage ni l'infrastructure adéquate. Les cinq présidents de parti et leurs collaborateurs sont donc à la recherche d'un nouveau lieu pour démarrer un conclave. Ce vendredi, Bardo Ever est attendu au Palais Royal pour faire état de l'avancement des négociations. Il a déjà prévenu que sans accord, il remettrait sa démission, même si eh bien, une prolongation d'un ou deux jours était dans l'air. C'est le sujet de notre débat. Justement, avez-vous un peu plus d'informations, messieurs, sur le nouveau lieu à l'heure où est enregistrée cette émission, Val-Duchesse? Et aussi, j'aimerais avoir votre réaction par rapport au fait que ce château, connu pour ses accords historiques dans l'histoire politique belge, eh bien, soit quelque part hors service. Et Dorian Demius, c'est très particulier ce à quoi nous assistons tout de même.
Oui, et aussi connu pour ses décisions douloureuses en termes d'austérité budgétaire, oui. Notamment. Donc voilà, je ne sais pas très bien pourquoi. En fait, il y a un paradoxe d'avoir voulu aller à Val-Duchesse de la part de Bardo Ever, parce que ça représente quand même un échec de l'Orange Bleu dans lequel, on rappelle, hein, la NV était en cartel avec le CDNV, mais pour lui, ça aussi était une rampe de lancement extraordinaire, parce qu'il a pu dire, oh, s'il n'y a pas d'accord, moi ça m'arrange très bien, il n'y a pas de Belgique demain. Et donc, ça a été le début d'une belle histoire pour lui, parce que depuis lors, bah, il est incontournable en Flandre, mais en même temps, c'est le symbole d'un échec, donc c'est assez particulier.
J'aimerais avoir votre réaction aussi, Fabrice Grosfilet. Bardo Ever, il avait participé il y a une vingtaine d'années négociations.
Je me souviens l'avoir interviewé.
Vous étiez juste devant du château de Val-Duchesse.
Avec des déclarations comme celles que Dorian vient de citer. Moi, j'étais un peu surpris, j'avoue, aussi, par le choix de Val-Duchesse.
Oui, d'accord.
D'abord, parce qu'il y a effectivement le plan global. Bon, ça, les plus jeunes ne s'en souviennent pas, mais c'était effectivement des mesures économiques qui étaient douloureuses. Il y a l'échec de l'Orange Bleu. Yves Leterme y est retourné après. C'est pas un château qui a une très très bonne image. Et en plus, s'enfermer dans un château pour la NVA, voilà, il y a quelque chose qui me semblait assez paradoxal. Maintenant, pour bien connaître les lieux, il faut quand même expliquer à nos auditeurs et téléspectateurs l'intérêt de ce lieu. Val-Duchesse, ce sont plusieurs bâtiments dans un parc. La presse ne peut pas rentrer dans le parc, on est à l'extérieur. Et donc, la manière dont ça s'organise à Val-Duchesse, c'est que le négociateur se met à un endroit, les délégations se mettent à un autre. Donc, chacun peut avoir son bâtiment. On peut prendre l'air facilement, sans que les caméras vous voient. Et par contre, on ne peut pas sortir. C'est-à-dire que, enfin, il y a une sortie possible, mais qui est un petit peu compliquée. Donc, on est un petit peu à la fois dans une certaine intimité, dans un certain confort, à l'abri des regards, et en même temps, on ne peut pas sortir. C'est un lieu idéal pour ce type de négociation dernière ligne droite. Quand on est au Parlement, c'est le cas maintenant, eh ben, évidemment, chacun a pas aller voir son aile dans la maison des parlementaires. Enfin, on a beaucoup plus de mal à maintenir les négociateurs tous ensemble.
Justement, Romuald Lamortey, on se souvient eh bien, que Jean-Luc Dehaene, il avait aussi des méthodes très particulières en termes de négociation au finish pour former un gouvernement à Val-Duchesse. Apparemment, même les négociateurs ne pouvaient pas boire de l'eau pour se rafraîchir, pas aussi de dîner prévu pour tout simplement prendre des forces.
Oui, il y a d'autres premiers ministres qui ont fait ça dans l'histoire de la politique belge, d'affamer les négociateurs et de ramener un magnifique plat avec leur cuisinier. Bon, ça a toujours été un peu comme ça. Moi, j'ai été aussi étonné de Val-Duchesse, parce que pour moi, c'est un peu le château hanté de la politique belge. Il y a eu les histoires douloureuses, fixation de la frontière linguistique du gouvernement SPAC, les années Martens-Goll, où il y avait notamment le saut d'index. Il y a eu l'histoire de Jean-Luc Dehaene avec le plan global. Il y a eu l'orange bleu qui a été avorté avec Yves Le Terme. Et comme très bien dit Dorian, mais maintenant, ça s'est bien inversé les courbes. Là, Bart De Wever était un peu au début. Maintenant, c'est un personnage incontournable en Flandre. Ce que n'est plus le CDNV qui fera partie si le gouvernement advient de cette Arizona. Donc pour moi, c'était un lieu assez symbolique. Vu ce qu'on sait qui se prépare dans les cartons d'Arizona au niveau socio-économique, j'étais un peu étonné. Alors on annonce que c'est potentiellement pour des problèmes de chauffage, de chaudière, bref, donc c'est pas mal, ça montre que le parc, j'ai envie de dire, des bâtiments de l'État dans lequel on a
la
mal
est
assez vétuste et qu'il y a de la rénovation en l'air.
C'est très paradoxal que Bart De Wever, l'homme qui a construit sa notoriété, le succès de son parti sur une dénonciation de l'établissement politique belge, de tous ces symboles de la monarchie, se retrouve finalement dans ce lieu qui les symbolise parfaitement, en fait.
Dans le Muse, Bart De Wever est-il en train de se transformer?
Ah non, ça je pense pas. Non, Bart De Wever, il a sa ligne, il est très solide hein, dans sa ligne. Je pense que la priorité aujourd'hui, c'est socio-économique. Donc peut-être que le communautaire prendra moins de place, même si il y a beaucoup de communautaires un peu à tous les étages.
On n'a
pas la note communautaire. Mais ce qui me paraît particulier, c'est qu'on parle d'un conclave. Un conclave, c'est-à-dire qu'on attend une fumée blanche à un moment donné, mais ici on n'attend pas une fumée blanche. On a une course contre la montre, et en fait on joue la montre. On sait que c'est vendredi, Puntan de Laine, et donc en fait, ils vont juste devoir trouver un endroit pour s'enfermer. Donc je vois pas très bien l'intérêt de changer d'endroit à la dernière minute, si ce n'est pour les relations interpersonnelles, mais on sait qu'elles sont déjà fort dégradées, même si, à nouveau, les francophones disent qu'autour de la table, c'est toujours constructif.
Et vous ne croyez pas du tout à cette date du 14 février qui émerge dans la presse flamande, date à laquelle l'État américain d'Arizona eh bien, a été créé. Parlons un peu du communautaire à travers eh bien, les réformes qui sont sur la table de l'Arizona. C'est vrai qu'il n'y a pas de bruxellois, Fabrice Grosfilet, à ces négociations.
Samy m'a dit qu'il a été bruxellois, mais qu'il ne l'est plus.
Du côté de Vilvoorde, maintenant le président du CDNV. Qu'est-ce qui est prévu pour Bruxelles? On parlait des fusions des zones de police, fusion peut-être potentiellement des CPS, mais là c'était pour la note plutôt bruxelloise. On parlait aussi de l'impact aussi de la fin des allocations de chômage à durée dans le temps. Voilà, comment Bruxelles sera mangée par l'Arizona?
Alors, vous venez de citer un certain nombre de plats qui risquent d'être difficiles à avaler pour les Bruxellois dans le menu qui est effectivement en préparation. La fusion des zones de police, j'ai cru comprendre que ni Maxime Prévost ni Georges-Louis Boucher ne s'y opposaient vraiment.
Donc il y a un accord alors.
J'ai pas dit qu'il y avait un accord, mais en tout cas ils ont envoyé des signaux comme quoi pour eux c'était envisageable. Ils l'ont même dit publiquement ou à peu près publiquement l'un et l'autre. Ils vont avoir peut-être un problème à gérer dans leur parti. Hein. Les engagés, il y a quand même quatre bourgmestres à Bruxelles. Vincent De Wolf, c'est pas non plus un partisan de la fusion des zones de police. Donc là, il y aura peut-être des problèmes à régler à l'intérieur des partis francophones, mais ça semble quand même quelque chose qui est relativement engagé. L'impact de la limitation des allocations de chômage dans le temps, ça va surtout toucher la Wallonie et Bruxelles. Ça va beaucoup moins toucher la Flandre, parce que la structure du chômage n'est pas du tout la même des côté de la frontière linguistique. On pourrait ajouter Belliris. Hein. Moi, j'avais Bernard Clairfaillie en interview ce matin. Il a dit, si on touche au montant de Belliris, alors on peut oublier la prolongation du métro 3 à Bruxelles. Mmh. Hein. Donc ça, c'est du communautaire qui n'est pas réellement du communautaire. Mais on sent que Bruxelles va être mis sous pression et que Bruxelles n'est pas défendu dans ces négociations. Et puis, on peut ajouter tout ce qui est la politique scientifique, hein, puisqu'il est question de faire des économies dans ce secteur-là aussi. La politique scientifique, ce sont des grands instituts bruxellois. Ce sont les musées royaux des Beaux-Arts, les musées du cinquantenaire, l'Institut royal de météorologie, etc. Ça touche Bruxelles de plein fouet.
C'est compliqué, surtout qu'on nous parlait lors de l'avènement de la Vivaldi, qu'on allait fêter en grande pompe le bicentenaire de la Belgique, qu'on allait se reposer sur ces institutions culturelles au niveau fédéral. Les coupes, alors qu'on nous parle beaucoup de rationalité, créer des doublons avec un institut du côté flamand, du côté wallon, je comprends pas toujours trop l'intérêt, alors que ce sont des institutions qui ont des défauts, certes, mais qui quand même ont un personnel scientifique de qualité, qui se repose sur une certaine assise. Moi, je suis un peu étonné là-dessus. Je pense, comme Fabrice, qu'il y a des choses au niveau socio-économique, et je pense vraiment que c'est l'allocation de chômage, c'est la Wallonie et Bruxelles qui vont être ciblées, et on se rend pas compte de l'impact que ça va avoir là-dessus. Et moi, j'ai un peu un problème avec cette deadline qu'on nous donne pour vendredi.
Le 31, oui.
Alors, je suis d'accord, ça fait 7 mois et demi, plus ou moins, qu'on négocie, mais à un moment, je pense que certains négociateurs ont trop cru qu'ils étaient Usain Bolt, alors que ce qu'il fallait, c'était imiter le parcours du combattant de Koh-Lanta. Et le parcours du combattant, il faut y aller. Et ben, tant pis, s'il faut quelques jours de plus, et bien, il faut les prendre. À un moment, je suis pas sûr de débrancher la prise. Bon, peut-être que tout le monde autour de la table se dit, ce n'est pas grave si je perds. C'est peut-être ça le problème.
Oui, enfin, sauf que tout est sur la table maintenant depuis des mois. Oui. Et ils savent qu'il faut dire oui ou non, lâcher là. Donc on est devant une table, un buffet dans lequel il y a des trophées, il y a des horreurs. Il faut prendre tout et il faut pouvoir camoufler les oreilles avec son petit trophée. C'est ça la réalité.
Si on peut prendre deux jours de plus.
Bon. Oui, mais ça ne va pas changer fondamentalement les choses, je ne pense pas.
Non, et au contraire, la deadline, c'est un argument de négociation. Mm-hmm. Si on ne conclut pas, on sort. Et je dirais que c'est de ta faute s'il n'y a pas d'accord. Ouais. C'est comme ça que ça marche une négociation.
Oui,
et c'est comme ça qu'on tord le bras de quelqu'un.
Voilà, encore un dernier mot. Dorian Demus, Romuald Amorté et Fabrice Grosfilet. Vous pensez oui ou non que Voreuil, quelque part, a été ferré par l'ensemble des autres négociateurs pour participer à un gouvernement fédéral? Vous avez des infos, Dorian Demus?
Moi, je pense qu'il y a une énorme pression autour de Voreuil, mais il y a une très grosse pression aussi autour d'ANV en Flandre, parce que les entrepreneurs, notamment, veulent absolument qu'il y ait un accord.
Voilà, malheureusement, on ne peut pas continuer ce débat.
Pardon d'avoir parlé pour tout le monde.
C'est pas grave, je dis juste oui ou non.
Mais c'est pas grave.
C'est trop tard, moi, je dirais pour Voreuil. Sortir maintenant, c'est trop tard. Voilà, sortir maintenant, c'est trop tard. Merci à Romuald Amorté, merci à Dorian Demus, merci Fabrice Grosfilet d'avoir participé à cette émission. Bonsoir le club. Tout de suite, vous allez retrouver le meilleur de la musique sur LN Radio et en télévision. Vous allez retrouver Nicolas Pipin. Bonsoir Nico pour Bonsoir le Prime. Qu'est-ce que vous nous avez prévu ce soir?
Salut Max, bonsoir à toutes et à tous. Focus d'abord sur l'intelligence artificielle qui vient de prendre un virage inattendu. Et un nom est d'ailleurs sur toutes les lèvres, DeepSeek. C'est le nom d'une start-up chinoise qui vient de bousculer le marché de l'intelligence artificielle. Alors entre Silicon Valley en panique et alerte de Donald Trump, que se passe-t-il concrètement? On en parle avec nos invités dans un instant. On reçoit aussi ce soir Firouzeh Navandi pour son nouveau livre « Femme iranienne, évolution ou révolution ». Et puis vers 21h30, Michael Zaniel, véritable référence dans le monde de la magie, sera avec nous pour le Festival Mondial de la Magie qui arrive dans moins d'un mois à Charleroi. Bonsoir le Prime, ça commence dans un instant. A tout de suite.
Bonsoir le club, en collaboration avec LN24.
I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. See the first leaf falling. It's all yellow and nice. It's so very cold outside. Like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing. Miss you much. Miss you much. Outside, it's now raining. it's not a big, big thing if you leave me, but I do feel I will miss you much, miss you
T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Le jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi
encore plus près de tes adversaires.
Mais ma meilleure ennemie c'est toi, puis moi. Le pire c'est toi et moi.
Et tu cherches encore ma voix, oublie-moi. Le pire c'est toi et moi. Pourquoi ton prénom te plaît? Quand tu te caches jusqu'à l'air dans l'espace, c'est de l'émotion, la haine ou la douceur. Quand j'entends ton prénom, je te le dis, ne regarde pas dans l'arrière, le passé qui suit, je me fais la.
Mais ma meilleure ennemie c'est toi, suis moi. Le pire c'est toi et moi. Mais ma meilleure ennemie c'est toi, suis moi. Le pire c'est toi et moi.
Vous écoutez LN Radio.
I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Mexican sky.
Drink some margaritas, by some blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
J'y arrive pas, faut que tu m'aimes. Faut que tu la trouves jolie ma voix et mes poèmes. Quand même, faut que tu m'aimes. Faut que tu gardes ta main dans la mienne quand je suis blême. Dis-moi que ça va le faire et qu'il y aura pas de problème. Que la lune est pleine. Pourquoi j'ai toujours besoin qu'on me valide, qu'on me trouve sympa, qu'on me trouve sublime. J'ai peur des avis, des cœurs qui s'abîment. De plus être dans le coup, j'ai peur de plus être la même. Que tu me jettes pour la prochaine venue, que je sois plus qu'une inconnue. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, sinon je perds pied. J'sais plus où aller, ni comment je m'appelle. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, c'est n'importe quoi. Tu crois plus en moi-même que moi. Faut que tu m'aimes. Sinon j'ai le cœur qui est pas tranquille. Faut que tu m'aimes. Quand je sais même plus comment je m'habille, comment je m'anime, que j'hiberne. Faut que tu m'aimes. Quand je crois plus à ce que je fais. Faut que tu m'aimes. Quand j'ai l'impression de tout rater. Faut que tu m'aides. Quand je me sens comme une J'ai peur de plus être la même. Que tu me jettes pour la prochaine venue. Que je sois plus qu'une inconnue. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, sinon je perds pied. J'ai plus où aller, ni comment je m'appelle. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, c'est n'importe quoi. Je crois plus en moi-même que moi. Pourquoi je remarque que les pouces s'emballent les mauvais démons? Pourquoi j'entends pas bien quand tu dis c'est bon? Pourquoi j'entends c'est nul quand tu dis c'est super, super? Pourquoi j'attends toujours l'autorisation? Pourquoi y a pas de confiance dans ma maison? Pourquoi je cherche toujours à plaire? Dis-moi que toi aussi t'es comme ça. Toi aussi t'es comme ça. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, sinon je perds pied. Je sais plus où aller, ni comment je m'appelle. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, c'est n'importe quoi. Faut que tu m'aimes plus fort que moi-même. Plus fort que moi-même. Faut que tu crois plus en moi-même que moi.
Turn me inside out and round.
and round, round, upside down. Boy, you turn me inside out and round, upside down. Boy, you turn me inside and round, upside down. Boy, you turn me inside out and round, round, upside down.